pas le programme. Et en fait, vous ajoutez, il me semble que l'aspect cyclique très important pour créer la liberté dans la présentation. Je ne sais pas comment vous utilisez ça.
Mais vous-même, pouvez-vous, comment dire, qu'est-ce que vous appelez
cyclique à répétition, dans la percussion, par exemple. C'est très important pour se guider, pour guider justement cette pensée, pour même commencer à produire.
Je ne sais pas. Vraiment, là, je ne sais pas du tout. Moi, je sais que pour jouer. En soi, je me suis toujours méfié du cycle, en fait. C'est pour ça que souvent, et c'est pas une posture, pourquoi je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas vraiment un percussionniste. Parce qu'un percussionniste, il va aimer vraiment le rythme, par exemple, hein, c'est-à-dire un découpage du temps et souvent des cycles, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'a jamais intéressé. Même si, bien sûr, je peux écouter des musiques comme ça, qui sont vraiment dans le cycle, etc. Et que ce soit toutes les musiques d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou les musiques de l'Inde, ou les grands, grands cycles de la musique coréenne, par exemple, ça me fascine complètement. Mais moi, quand je suis devant mon instrument, tout arrive sauf ça. Et je ne sais pas pourquoi, donc vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, moi, je sais qu'à une époque, il y avait... Il y avait des gens qui me disaient « Oui, mais quand même, il y a comme une sorte de scansion très lente dans le jeu. Mmh. » Mais moi, j'ai jamais repéré ça. Donc là, c'est vraiment un travail en toute inconscience, quoi. Absolument.
En toute inconscience, et à la fois, vous avez... Vous sentez ce sentiment d'être esclave de votre lancée, dans votre aspiration, travail.
Bah, c'est la condition humaine un peu, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, on a la caisse à outils, on a le manteau qu'on doit mettre, c'est rien de plus que ça, franchement. Mais c'est en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a, c'est justement, c'est encore ce double mouvement. Vraiment entre... C'est pour ça qu'en fait, conscience, inconscience, ça ne veut plus rien dire, ou improviser, jouer de la musique, tout ça. C'est des catégories qui sont trop bien définies, ou qui semblent séparées, mais en fait, ça aussi, tout le temps, maintenant. En toute inconscience, c'est-à-dire que il y a souvent quand même cette espèce de sentiment d'être un somnambule, quand même, de faire les choses sans vraiment se rendre compte, peut-être, simplement, des conséquences que ça a. Voilà. Des conséquences que ça a pour sa propre vie, mais aussi des conséquences que ça a dans l'oreille, par exemple, c'est de la musique. Ou dans la perception des gens quand parce qu'il y a une présence. Là, c'est presque en toute inconscience. Mais par contre, dans la conscience de ce qui se fait là, de manière très détaillée, sur, comme je disais, le poids des choses, la longueur des choses, les choses comme ça, et en plus, une longueur, en fait, c'est bizarre de dire ça, puisque ces longueurs ou ces durées, par exemple, elles sont même pas relatives, et elles sont même pas absolues non plus, parce qu'il n'y a aucun point de référence. Cette durée, elle est longue par rapport à quoi? J'en sais rien. Non, mais vraiment, c'est-à-dire une résonance, par exemple, ou un geste sur l'instrument, et ça va durer tant, mais ça va durer tant. Mais par rapport à quoi? Par rapport à l'horloge, par rapport au battement du cœur, par rapport à. J'en sais rien. Donc, l'histoire de la durée, on porte attention par exemple, à cette durée, mais cette durée non plus n'a pas de mesure. Mais on porte attention à ça. Au moins. C'est ça, au moins on est sûr de ce qui se passe là, à ce moment-là. C'est-à-dire on est sûr que c'est en fonction de ce qui se passe, le poids par exemple qu'on va mettre sur l'instrument, c'est celui-là, c'est pas un autre. Après, les conséquences globales, je dirais, de l'acte de faire ça, aucune forme d'idée, rien du tout, c'est là où il y a une véritable inconscience, quoi. Et un constat vraiment d'ignorance, mais vraiment extraordinaire. Vraiment, c'est...
Mais en même temps, enfin, je veux dire que tout ce que tu dis sur l'ignorance, l'inconscience, tout ça, etc., ça présuppose en amont, pour en arriver à ce que tu dis ça, c'est qu'en amont, il y a un travail énorme sur ton instrument même, enfin, comme tous les musiciens, d'ailleurs, qui ont traversé quand même quelque chose de se coltiner avec leur instrument. Il dire, pour que tu puisses atteindre ce niveau que tu dis, où à un moment donné les choses se font, c'est qu'avant ça, et même tu n'improvises pas avec n'importe qui, tu improvises aussi avec des gens qui sont dans le même, qui baignent dans le même espace que le tien, sinon ça ne marcherait pas.
Oui, oui, tu as raison.
Que tout ça n'est possible que parce qu'il y a un énorme travail avant. Enfin, je dis un peu ce mot travail qui a l'air presque grossier, mais c'est sinon.
Ouais. Je sais pas du tout si c'est un travail. Je préfère pas m'étendre sur ce sujet.
Il y a quand même une durité, une difficulté. Il faut quand même arriver.
Oui, il faut se coltiner, c'est sûr. Mais
c'est indispensable. Si tu ne peux atteindre cette liberté, je crois que pour n'importe quelle heure, à mon avis.
Oui, mais
c'est que parce que tu as tout ça, tu as travaillé tout ça.
Oui, oui, oui.
Sinon, ça marcherait pas.
Sans doute, je sais pas comment ça se passe, mais franchement, je sais pas comment ça se passe. Mais je sais qu'à un moment donné. J'ai senti que l'instrument il n'était plus à l'extérieur, c'est-à-dire que l'instrument je l'avais avalé.
Sauf que
je le recrache en permanence, c'est-à-dire qu'en fait c'est très difficile de le garder dans le ventre. Et donc en fait je le vomis quoi. Oh merde, il est là maintenant. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment l'instrument n'est plus un problème. Mais attention, parce qu'il y a un énorme mais. Il n'est plus un problème quand on a fini par créer en quelque sorte son propre écosystème avec lui. C'est-à-dire qu'on est complètement en phase avec ce qu'on est capable de faire avec lui. Mais si on me demande, demain il faudrait que tu joues Psapha de Xenakis, je serais absolument incapable. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas travaillé dans cette direction-là. Et donc il me faudrait beaucoup de temps pour pouvoir retravailler dans cette direction-là. Donc je ne suis plus dans mon écosystème, je suis dans un autre écosystème quelque part, pour un terme un peu comme ça, mais... Alors que, justement, ça, c'est c'est pour ça que je disais aussi que, sur l'histoire de l'habitude, c'est que, improviser, qu'est-ce que ça voudrait dire au bout d'un moment? Je me souviens, Peter Koval, qui était venu ici, vraiment un mois avant sa mort, en fait, bon, qui a été si soudaine aussi, qui était assez... Il est venu, non pas ici, c'était aux entrepôts. Et je me souviens, on avait eu cette discussion, parce qu'il disait, mais j'ai l'impression de faire toujours la même chose, ce qui était vrai. Alors lui, par contre, c'était vraiment vrai. Il avait 4 modes de jeu... Et en fait, d'un concert à un autre, il ne faisait que permuter les modes de jeu, quoi qu'il se passe. Et donc, on avait parlé de ça. Mais en même temps, ces 4 modes de jeu, donc qu'on pourrait, je sais pas, qualifier de pauvres de manière objective, en regard, par exemple, de la richesse compositionnelle, je sais pas, de l'œuvre de Helmut Lahrenmann, par exemple. Bon, certes, mais son se dire, il est tellement un avec ces 4 petites choses, on pourrait dire, que se pose plus le problème, en fait, de ça. Il est dans cet écosystème, il y a une espèce d'équilibre entre la façon dont il va utiliser l'instrument et la façon dont il en joue. Enfin, il y a plus de problème, quoi. Il y a plus de problème. Même s'il y en a toujours quand même, de temps en temps, il faut quand même revenir aux fondamentaux, malgré tout. Il y a toujours besoin, c'est-à-dire. Technique ou des choses comme ça quand c'est nécessaire, oui, quand même, oui, évidemment, mais c'est peut-être que justement le fait d'improviser ça, on finit les improvisateurs qui le font depuis longtemps finissent par être des moi je pense que c'est même s'il y a comment dire, il y a cette espèce de, c'est même pas un désir, c'est très difficile de définir les choses, mais il y a cette espèce de machin qui fait qu'on va quand même essayer tout le temps d'aller tomber dans les trous qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas encore explorés. Malgré tout, il y a quand même une forme de tradition, c'est-à-dire que chacun fabrique pas non pas sa tradition, mais disons c'est oui son écosystème, sa façon de respirer en fait. Mais que le travail à ce moment-là, c'est de ne pas s'enfermer dans cet écosystème et de ne pas le créer comme une bulle et de pouvoir malgré tout le rendre tellement transversal ou non, comment tellement ouvert. On peut traverser des tas de situations. Ça, c'est le travail le plus difficile. Et moi, j'ai eu cette vision en voyant des... Par exemple, un qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, c'était le tromboniste Paul Rutherford. Paul Rutherford, donc, avait vraiment été un improvisateur, donc vraiment faisant des sons pas possibles. Et puis, à un moment donné, il a complètement abandonné ça. Il jouait des mélodies. Et vraiment des mélodies, avec des notes, quoi. Il n'avait pas, sans, comme on appelle, entre cette espèce de solfège qui m'a paru toujours bizarre, les techniques étendues, moi j'ai jamais rien compris à ce terme, enfin bon bref, c'est encore un terme pour mettre les choses dans un... dans un tiroir. Enfin, bref. Mais lui, en tout cas, justement, il ne voulait plus utiliser des sons fantastiques du trombone, le son du souffle. Le son... Il jouait des notes. Des notes de trombone. Et, mais comment il les jouait? C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait jouer dans n'importe quel contexte parce que l'écoute était totalement ouverte. Donc finalement, au bout du compte, peu importe ce qu'il faisait, c'était pas parce qu'il jouait des notes que c'était bien ou pas bien. Le fait est qu'il était libre. Parce que son écoute était libre. Et j'ai eu une autre expérience comme ça, avec, assez similaire avec un autre qui joue, avec quelqu'un qui joue vraiment que des notes, on pourrait dire, quand il improvise. C'est le compositeur argentin qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Guillermo Gregorio, qui joue de la clarinette. Et lui aussi, lui, il joue que des notes, quoi. Et, mais il y a une telle... c'est difficile à décrire, il est tellement ouvert qu'il peut jouer do, ré, mi, fa, sol, et c'est absolument juste dans un contexte où pourtant tout le monde est sur tout, enfin, il semble que tous les autres sont sur d'autres appuis d'écoute, et lui, il arrive à traverser ça. Donc au dernier moment, le travail, il n'est même plus dans l'instrument. Vraiment, c'est vraiment comment ça passe obligatoirement par l'instrument, finalement. C'était toujours ce double mouvement, toujours ce truc qui va dans un sens et dans l'autre. C'est, on passe par l'instrument, mais ce n'est plus l'instrument. C'est moi ce que j'appelle avaler l'instrument. Mais ça c'est long. C'est très 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 long, quoi. C'est vraiment long. C'est pas que c'est long, c'est très lent. Alors il y a peut-être des génies qui sont super rapides, mais je trouve ça très lent et même souvent très laborieux, que des fois il y a une petite chose qui se déplace et c'est une fois tous les 5 ans qu'elle s'est déplacée. Et dans le jeu même, mais le jeu en même temps n'est jamais séparé des circonstances duquel il vient. Donc en fait, on pourrait dire qu'il change tout le temps. C'est cette confiance profonde qu'il faut avoir dans les circonstances, vraiment. C'est cette. C'est pour ça justement que si on parle d'improvisation libre, alors on pourrait vraiment discourir sur le mot libre, liberté, etc. Peut-être que si elle est libre, c'est qu'elle est, libre, en tout cas, de circonstances qui sont déjà mortes. Elle est libre parce qu'elle est, elle accueille les circonstances qui sont là, ici et maintenant. Et donc, sinon, finalement, on finit par créer une esthétique et finalement, on arrive à... On ne fait que transporter un objet mort qui est une esthétique. Et moi, j'avais eu cette réflexion quand j'avais entendu... des gens qui nous ont beaucoup, beaucoup fascinés, hein, les gens qui ont une génération après nous, on pourrait dire, après la mienne en tout cas, d'improvisateurs qui jouent vraiment extrêmement peu, très, de manière très minimale, avec aussi reprenant dans l'histoire certains concepts, non pas de la musique minimaliste, mais de l'art, des arts plastiques minimalistes, minimaux. Oui, c'est ça, donc vraiment des gens qui jouent avec très très peu de choses et tout ça. Il y a eu vraiment pendant ces dernières années tout un courant depuis une vingtaine d'années. Et puis quand j'ai appris que... Donc il y a eu... Bon, c'est pas vrai parce que historiquement, il semble que c'est né dans de plusieurs foyers dans le monde, cette manière de jouer, peut-être en réaction aussi avec un type d'improvisation qui était extrêmement affirmé, et etc. Et donc il y a eu des mouvements spontanés un peu dans le monde comme ça, d'un jeu extrêmement minimaliste. Et quand on m'a raconté que tous les Japonais qui nous fascinaient et qui n'y jouaient presque rien le faisaient parce que s'ils le faisaient, ils gênaient les voisins, que en fait, c'est formidable, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à une circonstance vraiment purement, vraiment très, très prégnante, qui était que le petit club dans lequel ils jouaient était tout petit, avec des murs épais comme ça, et qu'il était hors de question de jouer plus fort que, je ne sais pas, moins 75 dB. Donc, de toute façon, ils devaient jouer très doucement. Et donc, ils ont dû créer une musique qui joue très, très doucement, comme ça, avec presque rien, du fait de la nécessité sociale, je dirais, de l'endroit. Et alors après, j'ai trouvé justement très, très curieux que ces gens ayant trouvé ça, ils sont venus en Europe, comme ils ont beaucoup fasciné les programmateurs en Europe, ils ont beaucoup joué en Europe, mais ils faisaient la même chose que dans leur petit lieu tout petit. Ils disaient, mais c'est bizarre, pourquoi ils transportent les circonstances de leur lieu ici? Alors que là, il y avait un grand théâtre, très grand, et j'avais trouvé ça intéressant, mais bizarre. C'est-à-dire, ils sont évidemment libres de le faire, et ils m'ont quand même fasciné, mais je veux dire, c'est bizarre de ne pas s'adapter aux circonstances-là. Mais en même temps, je peux tout à fait comprendre l'objection, mais pourquoi vouloir s'adapter à ça? Finalement, c'est aussi, peut-être aussi une prise de position esthétique, peut-être aussi, j'en sais rien. Pourquoi, après tout, on peut dire me faire foutre, sa conscience, elle m'emmerde. Moi, je préfère absolument faire ça, et je ferai ça à ce moment-là, et un point, c'est tout. Après tout, ça peut être tout aussi valable. Sauf que ce n'est pas ma pratique, et pas celle des artistes qui continuent de m'émouvoir. Quoi. Mais en tout cas, disons que l'aspect vibratoire me paraît le plus... essentiel.
Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, manifestement. Donc, s'il y a d'autres questions,
pas trop, parce que justement, il faut que je me prépare, j'ai pas envie que le mental se mette en route.
Il va falloir peut-être mettre un terme à ce débat, hein, cette table ronde, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc on vous remercie très chaleureusement d'être venu. On espère pouvoir renouveler ce genre de manifestation, peut-être pas digne, bien que ce soit vraiment extrêmement intéressant d'entendre. Hein. Voilà. Donc, et donc, je vous invite aux deux concerts qui vont suivre. Hein. Il y a donc deux concerts en suivant. Hein. Donc, avec Gaël Roy, Marc Pichelin
et Martine
Atelier-Burger qui est ici. Hein. Et ensuite, il y aura donc un duo avec Frédéric Blondy et Neil Lecoigny.
C'est ce soir ?
Oui. Oui, c'est maintenant. C'est à partir de 8h30. Le lieu qui nous accueille, c'est le Ring quand même, et le Théâtre de l'Acte soutient nos actions IRER. Voilà.
Je vais faire une ou deux annonces, et effectivement, ne pas oublier toujours de remercier le Théâtre de l'Acte, qui depuis 40 ans nous soutient très activement dans la...
Merci.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Nous soutient très activement dans ces murs, en tout cas, et puis aussi dans la correspondance... j'allais dire de pensée ou de préoccupation partagée, en tout cas. Nous avons toujours ouvert son lieu, donc encore une fois, merci beaucoup. Même si on a, pour ces petits deux jours de festival, une aide de la municipalité de Toulouse, il faut quand même le dire. Ce sont les bailleurs de fonds, n'est-ce pas? Et on les remercie, bien entendu. Donc, l'IREA organise souvent des concerts ici. Enfin, souvent, peut-être pas très souvent,
oui,
mais... Voilà. Mais parfois aussi à Ombre Blanche, qui est la librairie que vous connaissez tous étant toulousains. Et le 18 janvier prochain, nous organisons en partenariat donc avec Ombre Blanche concert du saxophoniste britannique, qui est aussi un saxophoniste, on allait dire, historique, n'est-ce pas, de cette pratique de l'improvisation, qui s'appelle Evan Parker. Alors, c'est un très bon moment, je pense, dans l'auditorium de la librairie Ombre Blanche, 18 janvier 2012, présentement, à 20h30. Et avant le concert, il y aura aussi une rencontre avec Evan Parker et une petite discussion. Voilà, donc c'est aussi certainement un témoignage
fantastique. Avec protagoniste principal, Michel Doléda, en fait, ça, je ne le dis pas, mais je le rajoute. Ça peut toujours servir.
Oui. Et si vous lisez l'anglais, Evan Parker a écrit beaucoup de textes sur le site du London Musicians Collective, donc ça doit être l-n-c.co.uk, un truc comme ça. Enfin, vous cherchez London Musicians Collective. Et il y a énormément de textes de beaucoup d'improvisateurs anglais qui sont et des gens absolument fascinants qui continuent de nous éblouir par leurs approches, etc. Et en plus, il y a certaines de ces personnes qui sont extrêmement bons pour écrire, dont Evan Parker. Il y a beaucoup de textes de lui, donc vous pouvez lire ces textes.
Et d'ailleurs, à cette occasion, tu as bien fait de noter ça, la librairie Ombre Blanche va faire une petite édition d'un interview de Evan Parker qui est sur un de ses sites. Alors évidemment, c'est qu'une petite aspect de son travail, mais la librairie Ombre Blanche a eu intérêt à faire ça. Ça sera un petit fascicule qui sera vendu pour quelques pièces d'euros, pas très cher. Donc ça sera aussi une première collaboration dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, maintenant, évidemment, il y a Internet, bien sûr, où on peut lire des choses. Mais c'est beaucoup posé pendant longtemps, les témoignages des improvisateurs. Il y a très peu, finalement. Il y a eu très, très peu de choses, comme il y a finalement très peu de films. Voilà. Donc si vous voulez, bien entendu, c'est une très bonne suite. Maintenant, pour suivre la réflexion avec Nine, il y a son livre ici.
Merci, la version papier.
Ça, voilà. Car bon, tout ça, c'était bien joli, mais en fait, le but, c'est le commerce.
Ne gagne rien.
On ne fait pas que du commerce.
C'est en fait une édition qui est à l'université de Lyon. Voilà, donc c'est pas du tout du commerce, mais ça permet
et
de...
Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance, il y a Miette aussi qu'a écrit Michel Doledal chez le même éditeur. Voilà.
Voilà. Voilà. Et j'étais d'ailleurs extrêmement heureux que les deux livres sortent le même jour.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vraiment formidable, parce que Michel est donc un camarade de jeu depuis fort longtemps, depuis maintenant 25 ans. Et donc, c'était quand même sympathique que nous cachions...
Et justement, je n'ai pas dit grand-chose aujourd'hui, mais on n'a fait aucun progrès. Ça, je dois dire, c'est assez terrible, quoi. C'est un peu décourageant, mais enfin, bon, peut-être que vous êtes différents. Hein. Voilà, donc, l'ouvrage est 10 euros. Et c'est très bien.